Dans un peu moins de 60 minutes, l'épisode 349 sera déjà derrière nous et on pensera aux bonus à venir, mais pas si vite. Prenons le temps, par exemple, de parler d'un anniversaire qui ne va pas nous rajeunir, ou d'une centrifugeuse géante pour s'envoyer en l'air, ou encore d'une mini-centrale hydroélectrique à installer chez soi. Mais on parlera aussi d'une nouvelle fonctionnalité des bracelets Fitbit et, actualité oblige, de chasse aux œufs de Pâques. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Les chroniqueurs de jour sont les suivants. D'un côté, vous avez Xavier. Bonjour Xavier.
Hello.
Et de l'autre, vous avez Sébastien. Bonjour Sébastien.
Ami du soir, bonsoir. Ami du jour, bonjour.
Ça peut être le matin aussi. Enfin, c'est toujours le problème avec les podcasts. C'est qu'on ne sait pas quand on nous consomme, qu'on a l'habitude. Ça peut être en faisant son jogging, en faisant une vaisselle, en faisant à manger, en allant au boulot. Enfin, voilà, consommez-nous où vous voulez.
Moi, c'est en voiture.
Voilà, ça, c'est ce qu'il nous disait. L'un, c'est le dimanche matin.
C'est dans le fauteuil, le dimanche après-midi.
Le dimanche après-midi, là où il fait sa petite sieste, vous voyez. Donc, il s'assoupit après, voilà. Et puis celui-ci, Xavier, lui, c'est dans sa voiture où il fait sa petite sieste et s'assoupit aussi. Ce qui est un petit peu plus dangereux. Il faut en convenir.
Elle ne conduit pas encore toute seule.
Non, c'est ça. Le jour où ce sera le cas. Hein, ça permettra à tout le monde d'écouter beaucoup plus de podcasts.
Ça ne fera plus rire personne.
Et ça ne fera plus rire personne de s'endormir devant, on ne sait pas ce qu'il y aura, il n'y aura plus de volant, normalement. Qu'est-ce que je voulais? Ah tiens, je me suis trompé de bouton, c'est le genre de choses qui arrivent. Je suis là, voilà. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, comme par exemple, on pouvait peut-être entamer directement notre ABCDR, il y a de l'actualité, donc on va en parler. Voilà. Et on commence directement avec la lettre F comme Fitbit qui reçoit une nouvelle autorisation de la FDA. Fitbit peut maintenant prévenir de certains risques médicaux, ce qui est plutôt pas mal finalement.
Oui, en fait, aux États-Unis, quand un fabricant souhaite mettre en place une fonction qui touche à la santé, il lui faut l'aval, donc l'autorisation de la FDA, la Food and Drug Administration. En 2020, Fitbit avait pu lancer une fonction qui permettait d'identifier un trouble du rythme cardiaque qui augmente significativement les risques d'AVC. Donc c'est une application d'électrocardiogramme qui peut, mais uniquement sur demande, détecter et identifier correctement. On parle de 98% des cas, donc 98% des cas, la fibrillation auriculaire. Donc c'est une irrégularité du rythme cardiaque qui va augmenter le risque de crise cardiaque, de caillots sanguins, d'AVC et de tout un tas d'autres maladies cardiaques. Donc jusqu'à présent, Fitbit pouvait rendre ça disponible, mais uniquement à partir d'une action manuelle de l'utilisateur. Et actuellement, avec l'accord de la FDA, Fitbit va pouvoir pousser le monitoring et le faire en arrière-plan, et donc permettre aux utilisateurs d'être avertis, même s'ils n'en avaient pas explicitement fait la demande de monitorer sur le moment, d'être avertis en cas de risque d'AVC. Et du coup, grâce à cette montre connectée, un peu comme Apple le fait aussi d'ailleurs, ils vont permettre une surveillance de la santé cardiaque, détecter au plus tôt les facteurs qui augmentent les risques d'accidents mortels, dans ce cas-ci. Et évidemment, c'est pas un diagnostic, mais c'est quelque chose qui permet de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui semble anormal et d'aller se faire consulter rapidement. Alors il y a parfois des dérives avec ça, avec des gens qui à la moindre arythmie vont se rendre aux urgences, ouais. Mais on sait que ça a déjà sauver des vies dans plusieurs cas. Donc voilà, nouveauté pour Fitbit.
Oui, c'est pas le genre de truc, effectivement, quand on a cette tendance à aller chez le médecin pour un petit rhume ou pour le moindre petit problème, c'est le genre de chose qui peut être... Parce qu'en plus de ça, ça fait boule de neige, forcément, c'est le cœur, donc c'est le palpitant. On regarde sa montre, ouh là là, j'ai un problème. Du coup, ça crée des palpitations, donc du coup, on flippe encore un tout petit peu plus, je vais y arriver. C'est même difficile à articuler aujourd'hui, je sais pas. Mais tant mieux. Je veux dire, c'est dans pas mal de cas, ça peut effectivement déceler des soucis, des problèmes cardiovasculaires chez les gens qui, a priori, sont des sportifs. En général, quand on porte ce genre de bracelet, c'est parce qu'on est quand même actif, qu'on fait un peu de sport. Faut le reconnaître aussi. Et c'est là que ça peut être dangereux. Finalement, c'est pour un sportif. Combien de fois on n'a pas vu, malheureusement, effectivement des joueurs de foot, par exemple, s'étendre sur un terrain parce qu'ils avaient un problème cardiaque caché et que à l'occasion d'un effort particulier, ben voilà, ça se voit un peu tard, malheureusement. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de son côté. A-t-il une opinion?
J'étais très sceptique au début avec ces trucs-là, en essayant de séparer les gadgets, parce que des Fitbit, des Apple Watch, ça reste des gadgets grand public, d'appareils médicaux qui contrôlent quand même des fonctions vitales pour notre vie. Et puis j'ai un ami, ça serait trop une connaissance, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, plutôt technophile également, qui a une Apple Watch et qui un jour son Apple Watch lui a dit, ben attention, il y a un problème cardiaque à faire vérifier. Il a pris rendez-vous, effectivement, il avait des petits soucis. Rien de grave, et surtout comme ça, pris à temps. Donc, mais pour lui, ça a été utile, et j'étais très impressionné par la fonctionnalité de la chose. Et donc, si ça arrive sur plus de devices comme Fitbit, ben, tant mieux. Ça donnera l'occasion à plus de personnes de surveiller leur santé, peut-être d'éviter les accidents qui pourraient être très désagréables par la suite.
Par ailleurs, on l'a déjà dit aussi, il faudrait pas que ce soit maintenant ce genre d'outils ça ne remplace pas le médecin, hein, il faut être très très clair, mais que ce soit un prérequis, par exemple, pour accéder à certaines assurances ou au paiement de primes d'assurance, peut-être moins élevées, c'est toujours le risque, hein. Donc attention aussi à ce genre de dérive, mais bon, la technologie évolue et c'est plutôt tant positif, tant mieux. Mais l'avis du médecin prime quand même encore des examens dans un cadre médical hospitalier, ça reste quand même la référence, quoi. Il faut le rappeler quand même. Xavier, tu voulais conclure
peut-être. Oui, mais je pense que avec l'évolution de l'intelligence artificielle et donc la récolte de données finalement, hein, qui vont être analysées de manière automatique, moi j'ai l'impression que à terme on pourrait avoir des applications comme ça qui seraient plus efficaces pour analyser et interpréter des graphiques de rythme cardiaque. Après ça, les examens qui sont derrière doivent être faits par bien des sûr. Médecins, oui, évidemment. Ouais, Mais j'ai l'impression que ça permettrait d'éviter le stagiaire qui n'a pas vu une petite un tout petit symptôme qui est tout petit finalement, une anomalie qui paraîtrait anodine sur le graphique et qui finalement ne l'est peut-être pas.
T'as raison, hein. Je veux dire, tout évolue. On l'avait vu d'ailleurs. Je pense que c'était Google qui avait fait cette expérimentation médicale, parce qu'ils ont un secteur médical aussi développé chez Alphabet. On dit Google, mais c'est chez Alphabet. Et je pense que c'était pour les maladies de peau, si je ne dis pas de bêtises, puisque là, il y avait un aspect visuel que le médecin regarde. Et Google se trompait beaucoup plus rarement que la majorité des dermatologues qui pourtant expérimentés regardaient le grain de peau, enfin le petit bouton que vous avez, etc., et déterminer quelle était la nature de ce petit problème de peau et cette anomalie, voilà. Et donc ça devient à ce moment-là vraiment véritablement une aide aux médecins.
Plus du machine learning d'ailleurs que de l'intelligence artificielle.
Oui, tout à fait. C'est à force d'en avoir vu, comme le médecin d'ailleurs, hein, quelque part. C'est aussi l'expérience qui rentre en ligne de compte. Plus il en voit, plus il est expérimenté et plus voilà. Mais ici, c'est la machine qui le fait et ça donne du coup un coup de main, on peut le dire, au médecin. Mais ça ne remplace pas le médecin, une fois de plus, à ce niveau-là. Ok, bon, parfait. Mais bonne nouvelle pour Fitbit, donc, et pour les possesseurs de Fitbit. Mais t'as la lettre G comme Google, mais on aurait pu le mettre à la lettre A comme Alphabet, mais ça n'allait pas parce qu'il n'y avait pas d'alternance entre nos chroniqueurs. Du coup, quand Alphabet ou Google facilite le passage à iOS, ça c'est nouveau, ou en tout cas c'est récent.
C'est le passage de iOS vers Android.
Oui, c'est pour ça, c'est parce que on m'a mal écrit le titre. C'est qui
C'est vrai, j'ai fait, mais ça dans le ah non, c'est le passage iOS évidemment.
De iOS, alors il faut pas me dire à iOS, moi je lis bêtement. Je suis l'animateur de ce podcast, donc je fais ce qu'on me dit. Voilà.
Mais à culpa, mais à maxima culpa.
Ça existait déjà de iOS effectivement vers Android, de manière assez de Android plutôt vers iOS de manière assez simple. Bon. Ici c'est dans le on peut changer.
On peut le faire dans les deux sens.
On peut le faire dans les deux sens. Merci, bonsoir.
On ne peut pas tromper mille fois une personne, mais
oui, c'est ça. J'y pensais, mais j'osais pas.
Je vais essayer. Non pas que tu n'étais pas clair, Marc. C'est mon lancement qui n'était pas clair. Je vais essayer de récapituler.
Je me suis fait tromper.
Apple avait depuis 2015 une application qui permet de pomper, une application Android qui permet de pomper vos données Android et de les injecter dans l'écosystème Apple. Donc, pour faciliter la migration Android vers iOS, et Google s'est dit, bah, pourquoi on ferait pas la même chose? Alors, il y avait déjà des soupçons, depuis la Developer Conference il y a un an, on avait découvert des packages, etc. Mais là, c'est lancé, ça y est, bien qu'ils aient pas fait beaucoup de pub autour d'elle, il y a une application dans l'App Store d'Apple, une application Google qui permet de pomper vos contacts, vos téléphones, votre calendrier, vos photos et de les envoyer wirelessly, pour parler franglais, sans fil, vers un appareil Android. Il n'y a pas besoin de connecter les deux téléphones avec des câbles, tout ça, ça se fait via le cloud et donc c'est une application native installé sur son téléphone iOS qui va extraire les données qu'il peut extraire. Il peut pas tout extraire et c'est pas la faute de Google. Il y a des limitations techniques sur la plateforme Apple pour des raisons de sécurité. Une des choses qu'il peut pas faire, par exemple, c'est pomper vos applications et les données de vos applications. Vous avez, je sais pas moi. Facebook, bah vous allez devoir reconfigurer l'application Facebook de l'autre côté. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Enfin, ça ne marche pas dans les deux sens pour être plus précis. Que ça soit de iOS vers Android ou de Android vers iOS. Dans les deux cas, c'est le genre de choses. Les applications et la configuration des applications, vous allez devoir les adapter parce que les formats de fichiers qui sont utilisés pour stocker les configurations ne sont pas les mêmes. Mais c'est plutôt sympa. C'est toujours bien de faciliter la migration. Honnêtement, je me demande quelle est la part de bonne volonté marketing pour attirer des utilisateurs versus la part de montrer aux régulateurs, et je parle pour les deux, hein, aussi bien Apple que Google, montrer aux régulateurs que vous voyez, notre plateforme n'est pas fermée, on a même des outils qui facilitent la migration et le passage de l'un à l'autre. Je crois que c'est un peu des deux. Il y a une partie pour le bien-être des clients qui migrent, et c'est vrai qu'une migration de téléphone, je l'ai déjà fait une fois, enfin deux fois, une fois pour aller vers Android, une fois pour en revenir. C'était il y a très longtemps, il n'y avait pas ces outils-là, c'est pénible parce que fait la force d'un téléphone, et je vais terminer là-dessus, c'est pas l'OS ou la qualité de l'appareil photo, etc. À un moment, il y en a toujours un qui est mieux que l'autre et puis ça change. Mais ce qui fait la force, c'est l'écosystème. C'est ce système dans lequel on est.
Bien sûr.
Et qui, d'une certaine façon, nous garde captifs. Marc et moi, on est plutôt captifs sur iOS. D'autres sont plutôt captifs sur Android. Mais quand on a toute, je vais pas dire sa vie, ça serait peut-être exagéré, mais quand on a beaucoup d'applications et de données, changer de système, c'est toujours un peu pénible.
Par contre, je suis en train de défiler sous mes yeux le Google Play Store de la page de l'application. Les usagers sont très critiques. Hein, beaucoup de une étoile. Alors, il y a peut-être un petit peu de troll dans le chef des utilisateurs Android, ce qui ne serait pas nouveau. Hein, faut être
très clair. Ah là, t'es sur l'application de Apple pour migrer
vers
iOS et donc vers Play Store. Ouais.
Sur le Play Store, c'est ce que je disais. Et donc voilà. Mais bon, ceci étant dit, c'est vrai que moi, quand j'ai fait la migration d'Android vers iOS, je l'ai fait avec une certaine facilité grâce à une application Apple. Évidemment, bon, il y a toujours du paramétrage à faire parce que un système n'est pas l'autre. Hein, voilà, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Et après, on s'adapte, effectivement. Bon, le petit jeu, comme tu le disais, c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Mais je pense très honnêtement que si je devais faire le chemin dans l'autre sens, ça m'inquiéterait pas trop. En fait, je pense, j'ai pas trop à perdre. Enfin, si, j'ai des choses à perdre, mais pas trop, pas de trucs trop définitifs.
Moi non plus, mais parce que j'ai fait des choix proactifs de pas.
Oui. De pas m'affauder au maximum. C'est ça, voilà.
J'ai pas Apple Music, par exemple. Je continue sur Spotify.
Voilà, par exemple.
Il y a plein de discussions dans la famille, avec mes enfants notamment, mais pour le moment, au moins, Spotify, ça permet de garder une certaine liberté. Tu dois pas migrer tes playlists. Pour les photos, là, c'est plus coincé. Les contacts, je m'inquiète pas, ça, c'est le truc facile à migrer. Et les réseaux, c'est tout réinstallé, c'est chiant.
Qu'en pense l'usager Android de la maison?
Alors, moi, je dois avouer que j'ai jamais cherché à passer sur iOS, donc j'ai jamais fait cette expérience. Par contre, j'ai déjà utilisé ce genre d'outil pour passer d'un Android à un autre Android, mais alors il y a des versions où c'est très simple, mais on a parfois des fabricants qui ont leur propre surcouche et des choses comme ça où il y a des paramètres qui sont intéressants aussi. Et je trouve ces applications, globalement, elles fonctionnent assez bien, et au final, les choses qui ne sont pas migrables, j'ai l'impression l'impression que c'est jamais très essentiel. Ouais. Je peux me tromper, mais alors il y a souvent encore un moyen de faire une sauvegarde d'une manière ou d'une autre de l'application et de réimporter par la suite. C'est un peu plus complexe, peut-être que monsieur, madame, tout le monde aura moins facile, mais dans l'absolu, j'ai l'impression que les choses essentielles sont assez faciles à migrer. Maintenant, je crois que ça doit être le cas dans les deux plateformes.
Oui, mais ceci étant dit, l'aspect application, parce que c'est vrai que c'est laborieux quand même de réinstaller des applications, etc. Si pour les applications existantes dans les deux mondes, il pouvait y avoir une proposition, alors après on l'accepte ou on l'accepte pas, d'installer, je pense à Twitter, Facebook, enfin des choses assez communes, WhatsApp par exemple, voilà, de dire ouais, vous aviez telle application sur tel système, voulez-vous la même application, son équivalent sur le nouveau système, par exemple, quand c'est possible, je trouverais pas ça totalement crétin, et sans évidemment qu'on migre les paramètres, parce que là c'est de la sécurité, donc ça risquerait de poser des problèmes, mais que simplement l'installation de l'application en elle-même puisse être proposée. Je trouve pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouverais pas ça totalement idiot.
Ouais, ou alors c'est peut-être au développeur de permettre ça, tout simplement, de dire voilà, vous avez un compte chez nous, si vous souhaitez le migrer sur un autre appareil,
peut-être.
Voici la procédure, et
mais là aussi,
et je pense que ça serait sans doute le plus safe et le plus efficace,
ouais. Mais pas le plus simple pour l'usager, dans le sens où moi ce que j'envisageais, c'était vrai, d'avoir cette possibilité de ne pas justement devoir faire des installations de toutes les applications qu'on a l'habitude
d'utiliser. Tu tapes ton compte et voilà.
Ouais. Parce que là, du coup, tu l'installes manuellement, ta nouvelle application, prenons Facebook, tu tapes ton login, ton password, tu retrouves ton environnement Facebook, tu n'auras peut-être pas tous les historiques, etc., que tu avais, mais sont-ils utiles? Et encore, je suis même pas sûr sur ce type d'application, je pense que l'historique est côté serveur et pas localisé sur l'appareil.
C'est ce que j'allais dire. La plupart, on vit dans un monde cloud maintenant, donc la plupart de vos données, elles ne sont pas sur votre téléphone. Il y a 20 ans, vos mails, ils étaient sur votre PC. Si
oui, c'est ça.
Si vous changez PC, vous deviez copier votre mailbox.
Ouais.
Maintenant, les mails, ils restent sur vos serveurs, et donc, quel que soit le terminal auquel on accède, on voit la même chose. Et je prends l'exemple des mails parce que ça fait un peu vieux con, mais c'est la même chose pour les données WhatsApp, Facebook, etc. Il n'y a rien
les
sur
fax,
votre... À part des caches, il n'y a plus rien sur votre portable.
Ok, bon ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Si ce genre d'application vous intéresse, si vous avez une migration à faire, évidemment, si vous ne migrez pas, ça ne vous intéressera pas, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire votre petit commentaire en commentaire, dans les commentaires, si vous voyez ce que, si vous voulez commenter, quoi. Bref. La lettre, je voulais la trouver trop vite. La lettre I, comme impression 3D, c'est Ricoh qui dévoile une mini centrale hydroélectrique, Xavier.
Oui. Donc effectivement, c'est le japonais Ricoh qui a développé une mini centrale hydroélectrique. Donc le but, c'est évidemment de générer de l'électricité à partir de l'eau. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est d'abord un appareil qui a été baptisé 3D Pico Hydrogenerator System. Alors avec le nom 3D Pico, on a déjà deux indices. Le premier, c'est que c'est un petit appareil. Le deuxième, c'est que c'est 3D. Donc c'est un appareil qui a été fabriqué à partir de matériaux durables, notamment des plastiques recyclés, et avec impression 3D. Alors quand on dit plastique recyclé, donc c'est pas le plastique qui est évidemment durable, mais le fait de le faire à partir de plastique qui est lui-même recyclé, c'est positif pour la planète et donc un côté durable. Alors l'idée, c'est de produire de l'électricité même avec un petit jet d'eau à partir d'un système de drainage d'une usine par exemple, ou d'un canal d'irrigation, d'une petite rivière, peu importe. Et la version la plus performante du système développe une puissance de moins de 5 kilowatts. Donc c'est vraiment pas énorme, mais ça peut fonctionner en complément de, enfin, ou à l'aide également de panneaux solaires. Le principe, c'est qu'on a une espèce de vis sans fin qui va être alimentée par le cours d'eau. Donc on peut avoir deux entrées dans le système. Il y a quelques images pour certains, mais l'idée, c'est qu'il y a deux entrées dans ce système. Ça peut être un tuyau par exemple qu'on vient récupérer, d'où sortirait l'eau et qui vient directement dans l'espèce de tourbillon. Enfin, c'est pas vraiment un tourbillon, mais une vis sans fin. Et l'autre moyen, c'est de mettre cette centrale dans l'eau, ce qui va, entre guillemets, bloquer le courant d'eau, qui va se surélever un petit peu et du coup rentrer dans l'engin et actionner cette vis sans fin. Le produit a été utilisé, et, ou en tout cas il est destiné à être utilisé avec différents types d'appareils. Donc il y a par exemple des ampoules pour de l'éclairage, mais ça peut être des capteurs connectés, ça peut être des systèmes de vidéosurveillance. Ils ont déjà fait un test, ils ont d'ailleurs fait un test au Japon dans une région assez reculée où ils ont alimenté des capteurs IoT et un système de vidéosurveillance pendant 9 mois. Mais ils travaillent également, donc les ingénieurs de Ricoh développent une version de la machine avec une puissance de 1 kW, mais aussi des modèles qui sont beaucoup moins puissants. Et là, c'est plutôt une dizaine de watts pour faire fonctionner des tout petits capteurs IoT, par exemple pour prévenir des catastrophes. Ça pourrait être une analyse de vibrations du sol, des capteurs de qualité de l'air et des choses comme ça. L'objectif évidemment de Ricoh, c'est de déployer ça dans les places qui sont les plus reculées de la planète, hein, donc dans des endroits où l'électricité est difficilement arrive difficilement jusqu'au village ou autre, et on ne sait pas encore exactement quand ce sera disponible à l'échelle mondiale, mais on sait déjà que Ricoh va d'abord le commercialiser au Japon. Donc c'est un chouette objet. Maintenant, moi je pensais, en ayant vu cette news au départ, que c'était un projet do it yourself. Et très franchement, quand je vois l'appareil, alors je ne sais pas s'il y a une question de brevet ou autre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que monsieur, madame, tout le monde pourrait faire s'il chipote déjà un petit peu avec l'impression 3D et tout petit peu d'électronique, quoi.
Monsieur, madame, tout le monde, peut-être pas, mais le geek averti, on va dire,
les makers
sommeille en vous, le makers, le picabou qui sommeille en vous, ou le Xavier, pourrait effectivement, parce que finalement, c'est vrai que le constat qu'ils ont fait est assez simple, c'est le principe du barrage en quelque sorte, mais avec un peu réécrit, et donc c'est vrai qu'avec une boîte oblongue avec ce système de vis sans fin, parce que c'est ça en fait la pièce maîtresse, c'est la vis, hein,
au lieu d'avoir une roue comme dans un moulin une vis sans fin, et donc moi j'imagine on pourrait même mettre ça au bout d'une corniche par exemple, ou quelque chose
exemple. C'est un peu ce truc est tu parles de la roue la roue qu'on voit dans les moulins, les moulins, quoi. Enfin, pas les moulins avant, les moulins à eau. Je vais y arriver. Ce truc-ci, c'est un petit peu l'équivalent de l'éolienne verticale. Vous voyez, le truc, le tube, plutôt que de truc avec les hélices. Donc, c'est un peu le même genre de philosophie.
Il y a des pattes qui ont exactement la même forme aussi, mais je sais plus le nom.
Ah tortellini. Oui, effectivement, les tortellini. C'est les tortellini. Ouais, excellent. mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas de la sauce tomate qu'on fait passer dedans.
On dérive de Ricoh tortellini. Ouais, c'est incroyable.
Ricoh, c'est pas une marque de pâte. enfin voilà, moi je trouve ça intelligent, pas super compliqué. Effectivement, ça aurait pu être un projet de jeunes étudiants en mécanique ou autre. Moi je trouve ça plutôt rigolo. Si j'avais un jardin, je ferais des barbecues, machin, etc. Et si j'avais une rivière au bout du jardin, c'est le genre de truc que je ferais bien volontiers.
Pour l'éclairage du jardin.
Oui, par
mais
exemple,
peut-être que je vais essayer le coup de la rigole. Je vais me pencher dessus. Il faudrait déjà que je sache quoi alimenter avec, mais.
Ça pourrait être effectivement dans un écoulement de corniche, si vous avez du débit, etc. Enfin, je sais pas.
Le problème, c'est qu'il faut combiner ça à une batterie pour que tu puisses.
Il faut un régulateur, il faut charger une batterie. Oui, c'est ça, y avoir un peu. Parce que il y avait un exemple dans une des vidéos que tu nous mets en lien d'ailleurs. Hein, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description du podcast ou sur notre site lestechno.be. Vous trouverez différentes vidéos. Et on voyait qu'effectivement, il branchait une lampe LED, mais que sans régulateur, c'est un peu fonction du débit de l'eau. Donc, ça a tendance à monter, descendre. Donc, voilà, il faut un peu d'électronique derrière, a priori, pour arriver à avoir quelque chose qui soit stable. Mais pour recharger une batterie, par exemple, ou autre, c'est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Ou simplement faire du contrôle, hein, au fond du jardin, on a une petite rivière. Si le débit s'accélère un petit peu, mettre une petite alarme pour dire, oulala, là, ça commence à produire, mais... attention.
Enfin, un objet connecté avec IFT, etc.
Ouais, ça ouvre des choses marrantes. Ça donne envie de faire plein de trucs. On va arrêter ici cet épisode et on va s'y plancher tout de suite tous les trois parce qu'on a très envie de jouer avec ce machin. Mais voilà. Un dernier mot peut-être. Je sais pas, Sébastien, si un dernier mot.
Ah oui, moi je me disais chaque fois qu'on parle de Rico, j'imprime pas quoi.
D'accord. Merci beaucoup. Tiens, la lettre N comme NFT, est-ce que ça marche? Quand le cours du NFT s'effondre, c'est ce dont tu veux nous parler, je pense, Sébastien.
Ouais.
Parce que tu as observé des trucs qui se passent du côté des NFT qui sont pas très rassurants pour les possesseurs des NFT.
Et j'avoue, je plaide coupable. J'ai écrit un titre un peu putaclic là, parce que c'est pas tous les NFT qui s'effondrent, c'est un NFT qui s'effondre, mais ça peut peut-être montrer une tendance. Qu'est-ce qui se passe? Donc les NFT, ce sont ces non-fungible tokens. Je vous avais expliqué techniquement comment ça marchait il y a quelque temps dans un épisode des podcasts. En gros, c'est un titre de propriété d'une œuvre numérique, typiquement une image, un son, quelque chose comme ça. Et ça s'achète, ça se vend, il y a des plateformes, ça se revend également, il y a un marché de l'occasion si vous avez envie de NFT d'occasion. Et c'est exactement ça qu'a fait cet entrepreneur iranien qui a acheté le premier tweet de Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est le fondateur de Twitter, on en parlait tout à l'heure. Twitter et Jack Dorsey avait fait son premier tweet qui était assez banal, hein, si je me souviens bien, je crois que je l'ai là à l'écran quelque part. Oui, il mettait just setting up my Twitter. Okay. Il avait même pas écrit Twitter en complet, il avait oublié toutes les voyelles. Je sais pas, il a un clavier spécial, ce monsieur. Et donc, ce monsieur voulait se faire de l'argent. Il a dit, je vais vendre cette œuvre d'art, puisque c'est le premier tweet de l'histoire de l'humanité, quand même, avec un NFT qui prouve le bien fondé de la propriété de ce tweet. Et c'est un entrepreneur iranien qui l'avait acheté à l'époque pour, tenez-vous bien, 2,9 millions de dollars. Ben oui. Et puis le monsieur, je sais pas, soit il a besoin d'argent, soit il est animé par des bons sentiments. Il a dit, je vais le revendre aux enchères, mais c'est pas pour faire de l'argent. Je vais donner 50% de la vente à des œuvres caritatives. Grand bien lui fasse. Première enchère à 2 millièmes d'Ethereum. Alors prenez pas votre calculatrice, je l'ai fait pour vous. C'est 5,9292 dollars. 6 dollars. Vous avez bien entendu, hein, 6. Dernière enchère, 2,2 Ethereum, c'est-à-dire 6 800, presque 7 000 dollars. Et monsieur, il a décidé de prolonger un peu les enchères.
Oui, bon, ça, je pense.
Donc, on achète un truc à... En fait, c'est ça, la fond de l'histoire, c'est on achète un truc à plus de 2 millions de dollars et on n'arrive pas à le revendre à plus de 7 000 dollars après. Donc voilà, c'est vraiment du vent, le NFT.
Mais est-ce qu'il donne la moitié pour une œuvre caritative?
En plus. Donc, il demande aux œuvres caritatives de lui venir en aide, en fait.
Vous achetez des NFT, vous achetez quelque chose d'hautement spéculatif. Donc, ouais. Du vent, en langage de monsieur et madame tout le monde, spéculatif, en langage un peu plus éduqué, mais ça n'a aucune valeur. Le marché de l'occasion n'a pas l'air de marcher non plus. À voir, comme on dit toujours.
Je vais passer tout de suite la parole à Xavier, mais moi, s'il y a un truc qui m'agace un petit peu dans cette histoire de NFT, c'est que ce qui se vend et ce qui s'achète actuellement en matière de NFT n'a pas de valeur artistique intrinsèque. Moi, jusqu'à présent, j'ai rien vu, voilà, par des vignettes de joueurs de football ou des singes. N'importe quel graphiste vous fait ça, vous en faites 30 sur un coin de table. Quel est l'intérêt d'acheter ces broles qui ne servent à rien et qui n'ont pas de valeur je le répète, artistique intrinsèque. Ce serait une œuvre, je sais pas moi, d'un artiste connu et que vous voulez en avoir la possession. Voilà, on pourrait l'imaginer.
Il y en a aussi. Banksy, par exemple. Avant
Banksy, je l'ai cité justement.
Ah bah voilà.
Voilà. Par exemple, Banksy. Là, on se dit, ok, là, sans doute que ça peut prendre de la valeur dans l'avenir parce que Banksy, il est, comme on dit, bankable aujourd'hui et que ces œuvres se vendent et s'achètent. Relativement cher, c'est les choses que les connaisseurs et les passionnés ont envie de posséder. Mais franchement, un tweet de Jack Dorsey ou que sais-je, ou la première page web ou des trucs comme ça, ou le mec qui a fait un panneau rien qu'avec des glitches, donc des artefacts vidéo, ça ça n'a pas de, alors, sans jugement de valeur, ça n'a pas de valeur artistique. Quel est l'intérêt d'acheter ces machins-là très chers? Et effectivement, on voit le résultat, ça ne se revend absolument pas parce que les gens disent, qu'est-ce que, bah, maintenant je l'ai vu, le tweet, c'est bon, je l'ai lu, hein, là, le JPEG qui est dans la page fait, clic droit, copy image ou save image as, et je l'ai. Voilà.
Oui, le NFT ne contrôle pas la copie, hein, c'est juste un titre de propriété d'un bien numérique qui peut se copier par définition à l'infini sans dégradation de qualité, contrairement à des films ou les musiques avant. Ouais. C'est juste un titre de propriété, c'est un acte notarial qui dit ça t'appartient.
Xavier.
Alors, moi, je me suis pas encore assez renseigné sur le sujet. Donc, ce que je dis est à prendre avec des pincettes malgré tout. Mais de ce que j'en ai perçu, j'ai l'impression que, en tout cas à mes yeux, le NFT n'a d'intérêt que si, ou en tout cas en gros, majoritairement, s'il est combiné à quelque chose de fongible, justement. Donc une œuvre, par exemple, j'ai vu des NFT qui étaient combinés à une œuvre artistique réelle, donc un CD, un tableau, des choses comme ça, et où combiné à cette œuvre, tu as une œuvre digitale qui, elle, est finalement un bonus, entre guillemets, qui vient se rajouter. Alors moi, je crois beaucoup plus à ça. Je crois moins à l'autre aspect, d'autant plus que on peut déjà, dans des blockchains, attester de l'authenticité d'un objet numérique. Donc, mais voilà, je maîtrise pas encore assez le sujet pour dire que ça n'a vraiment aucune valeur, mais à mes yeux, en tout cas, si moi je devais investir dans un NFT, ce serait un NFT qui est combiné à quelque chose de physique, qui a de la valeur et qui, à mes yeux, se revendrait plus facile. Mais je peux me tromper. Donc, il y a des jeunes qui ont vendu des maisons 3D dans un multivers à des centaines de milliers d'euros. Alors, ce qui a de la valeur pour certains n'en a pas pour d'autres, et inversement.
Oui, bien sûr. Mais même dans le monde réel, et ça pourrait très bien, du coup, rejoindre ce que tu viens de dire, Xavier. Moi, je me rappelle, il y a de ça pas mal d'années, dans le monde, je ne sais plus de quel artiste il s'agit exactement, mais c'était à l'époque où c'était encore, on écoutait la musique sur des vinyles, pour vous dire comme c'est récent. Un artiste avait mis en vente les matrices qui permettait de presser les vinyles en question, et les avait mis aux enchères très chères en ayant détruit toutes les autres formes de bandes, etc. Donc il n'y avait plus que cette trace là et il avait mis ça aux enchères très chères, etc. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait reproduire le même schéma en disant pour valider en fait la propriété de monsieur Xavier qui a acheté le nouveau titre de ou l'album de je ne sais pas qui, et il a toutes les bandes, il a le machin, etc. Il est propriétaire de ça. C'est validé par un NFT, ça pourrait être le cas. Quoi. Ouais.
Tu pourrais par dire exemple. Ça, c'est vraiment le fichier qui a servi à enregistrer la session, et c'est l'original. On l'atteste grâce au NFT. Et ça pourrait avoir de la valeur. Mais de nouveau, c'est combiné à quelque chose.
Une fois de plus, hein, si chez vous avez, déjà vous avez investi dans des NFT. N'hésitez pas à vous dénoncer. On rigolera avec vous, hein, ou on pleurera avec vous. N'hésitez pas. Mais si vous avez une opinion sur le sujet, je ne doute pas que vous en ayez. N'hésitez pas aussi à partager votre opinion avec la communauté de manière générale. Cet abécédaire de temps en temps me joue des tours, donc c'est NFT avant NASA, évidemment, si on traite les choses par ordre alphabétique, ça dépend comment... N comme NASA, la NASA va tester un nouveau système de lancement, et pas des moindres, Xavier, ça fait des semaines qu'on voit cette news, et chaque fois on se dit, est-ce que c'est, on va le faire ou pas, est-ce que c'est sérieux? C'était bien avant le 1er avril, donc ça déjà c'est bon, c'est quand même un truc un peu particulier, il faut bien le dire.
Oui, effectivement. Vous voyez un petit peu les essoreuses pour la salade qui permettent dans le vélo. Eh bien, c'est ça.
C'est ça, un appareil. On tourne, ça ressemble vraiment à ça. Ça. Et moi, quand j'étais gamin, je m'amusais à ouvrir le couvercle pendant que ça tournait. Et donc, on se prenait la salade ça énervait tout le monde.
De quoi parle-t-on? On parle d'un projet développé par la startup Spin Launch, qui est un nouveau système de lancement de satellites, qui est un petit peu hors du commun, et donc qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un système qui repose, je l'ai dit, sur une centrifugeuse, mais celle-ci est électrique, elle est massive, et elle est capable d'accélérer à des vitesses hypersoniques. c'est-à-dire jusqu'à 8000 km/h, donc votre salade elle en prend un coup, avant de projeter l'engin qui est envoyé en orbite. Alors pour que ça fonctionne, évidemment, cette centrifugeuse elle est scellée sous vide, ce qui évite le frottement et permet d'atteindre des vitesses plus élevées. Il y a un énorme bras rotatif en fibre de carbone auquel va être fixé un projectile, donc typiquement, ça peut être des satellites, mais ça va pouvoir être d'autres types d'objets, on va en reparler, qui va accélérer à une vitesse hypersonique, et puis ça libère l'objet en une fraction de seconde, et les tests ont montré que ce système pouvait catapulter dans les airs une charge utile à plus de 1600 km/h, à environ 9 km d'altitude. Donc ça, ce sont des tests actuels qui montrent que ça peut fonctionner. Alors l'atout principal de ce genre de système, c'est que on va pouvoir se passer des fusées d'appoint qui sont utilisées aujourd'hui pour mettre en orbite des satellites et autres. Alors on sait que Elon Musk a développé quelque chose qui permet à ces fusées de revenir, mais il y a toujours quand même un gros gaspillage. Il y a des éléments qui ne sont pas toujours recyclables, notamment déjà le combustible qui est gaspillé qui coûte très cher et qui pollue. Donc il y a cet aspect d'abord environnemental, mais si on veut aussi pouvoir s'installer par exemple durablement sur la Lune, on va devoir faire des centaines de lancements d'équipements, de fournitures dans les prochaines années, et un système comme celui-ci qui est sans fusée ne va plus émettre de gaz nocif, mais il va pouvoir aussi réduire fortement les coûts. Donc on a parlé des coûts de carburant. Pour vous donner une idée, un lancement standard, ça coûte en général entre 5 et 100 millions de dollars. Alors qu'un lancement par centrifugeuse comme celui-ci reviendrait à moins de 500 000 dollars. Alors ça reste une somme, mais c'est largement moins que ce qu'il faut prévoir avec un lancement classique. Et les premiers tests sur un prototype de taille réduite sont vraiment prometteurs. Ils font des tests actuellement pour des lancements suborbitaux au Spaceport America au Nouveau-Mexique. Et la NASA semble convaincue par cette alternative. C'est ça qui remet un petit peu à l'ordre du jour cette news, parce que elle est plus économique, plus respectueuse. Ils viennent de signer un accord à Space Act avec la start-up pour tester l'engin un petit peu plus tard cette année. Et l'équipe, on l'a dit, pense pouvoir réduire par 20 le coût de mise en orbite des satellites de petite taille. Donc l'autre avantage, c'est qu'ils vont pouvoir aussi faire des lancements, des dizaines de lancements par jour. Donc l'autre enjeu de ce type de procédé, c'est par exemple si on veut lancer un satellite, il faut pouvoir développer des appareils qui sont capables d'encaisser l'énergie cinétique de ces engins. Donc on sait que par exemple quand vous tapez sur une balle de golf, la conception d'une balle de golf, c'est vraiment un enjeu technologique très important parce que il y a des forces qui s'exercent, et dans ce cas-ci, l'accélération, elle équivaut à 10 000 G.
Donc, inutile de dire qu'on ne va pas propulser un humain avec ce machin-là, ou alors on va le retrouver en soupe.
On pourrait essayer, mais on le reverra pas tout de suite, quoi.
Oui, c'est ça. Il sera démonté, quoi. À 10 000 G, c'est les éléments d'un humain qu'on va envoyer sur orbite, mais rangés par des petits
chiens. Je trouve ça intéressant comme ça, en tout cas, ça a testé. Je pense que ça peut être.
Oui. Enfin, moi, je ne demande qu'à voir, mais je trouve ça impressionnant, surtout. Et bon, voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien.
Moi, non, ça me fait tourner la tête, moi.
C'est ça, moi aussi, un peu. C'est un peu.
C'est génial. Quand j'ai vu la news, moi, je croyais que c'était 1er avril. J'ai double-checké, triple-checké. J'ai fait d'autres recherches, etc. Non, c'est sérieux. La NASA a signé un contrat avec cette start-up-là. Il y a quand même un petit moteur, hein, si j'ai bien compris, dans le satellite pour le positionner en orbite correcte après, une fois qu'il est lancé, qu'il sort du champ de gravité de la Terre, il doit un peu être autonome et se positionner. Mais je crois que tous les satellites ont ça maintenant, des capacités de correction d'orbite. Donc je ne sais pas à quel point c'est différent d'un moteur normal d'un satellite. Je demande qu'à voir. Très intéressant pour tous ces gens qui veulent lancer des centaines de satellites en orbite basse pour faire des constellations de télécom. Je pense à Elon Musk, à Jeff Bezos avec je sais plus comment s'appelle sa société à lui, et puis il y en a un troisième aussi. Enfin bref, chaque fois c'est des centaines de satellites. Si on peut en lancer plusieurs par jour, ça va accélérer le déploiement de ce genre de solution et baisser les coûts.
Oui, je rappelle quand même, il faudrait un peu creuser la question, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est, ça fait partie du passé. Certains ont même pensé utiliser des canons hein, pour envoyer des, mm-hmm. des objets dans l'espace.
Jules Verne
Jules Verne, par exemple, mais d'autres aussi, et certains margoulins aussi ont essayé de vendre des idées de propulseurs type canon, quoi, hein, comme on tire un obus, bah, de le tirer, mais plus haut et plus loin. Ça n'a pas marché, hein, ça saurait, en fait, on en aurait parlé, mais voilà, c'est tout ça pour dire que des lubies ou des idées comme ça, il y en a très régulièrement, et donc...
C'est une espèce de fronde géante, en fait. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais, voilà, ouais, c'est une catapulte.
Une,
enfin, ouais,
c'est une catapulte, ouais.
Une fronde, je crois que c'est mieux, ouais. Un truc qu'on fait tourner avant de lancer la pierre, ouais.
Devant le bruit que
il
ça
faut
fait,
ça, il faut innover. Expérimentation oui. et innovation, ça va ensemble. Il faut pouvoir oui. expérimenter à bas coût, parce que sur 10 expériences, il y en a 9 qui vont pas marcher, et c'est en apprenant sur ces 9 qui n'ont pas marché, et surtout en permettant d'en faire encore plus, qu'il y en a une qui va sortir de temps en temps, et au plus on peut en faire, à bas coût, au plus il y aura des bonnes oui. idées qui vont.
C'est bien, c'est excellent pour l'Azerbaïdjan en même temps, hein, d'investir à bas coût. C'est... Allez, on passe à la suite. Désolé. Oh, comme œuf. Bah oui, c'est Pâques. Donc, on avait le choix. Soit des lapins. Je comprends toujours pas pourquoi il y a des lapins à Pâques. Soit des œufs. Ceci dit, je comprends pas pourquoi des œufs à Pâques. On pouvait faire les cloches aussi. Mais ça, je les ai
les
déjà.
Cloches.
les poules. Des œufs qui font du bruit. À quoi ça sert?
Eh bien, bah, ceux qui me connaissent savent que je suis particulièrement sensible aux questions d'inclusion, et notamment d'inclusion des personnes qui ont des déficiences physiques d'une façon ou de l'autre, présentiellement des déficiences visuelles. Je suis pas le seul dans l'équipe à m'intéresser à ça, mais pas pour les mêmes raisons. Et là, c'est un créatif américain, nord-américain, États-Unis, qui a créé pour cette fête de Pâques des œufs qui font du bruit. Donc en gros, ça a la forme d'un œuf, ça a pas la couleur d'un œuf, ça a la couleur d'un œuf de Pâques, donc c'est très coloré. Il y a un petit bouton dessus, un système d'alimentation à l'intérieur et un petit haut-parleur, et ça dégénère un bruit à intervalles réguliers, c'est pas un bruit constant, c'est un bip-bip, qui permet, pourquoi a-t-il fait ça? Ben pour que des enfants malvoyants puissent également participer aux chasses aux œufs. C'est
malin.
Pas mignon, ça. C'est vrai que c'est un plaisir que les enfants malvoyants n'ont pas et qu'ils pourraient avoir également grâce à ces œufs de Pâques qui font du bruit. Alors, à mon sens, il y a qu'un seul défaut. Il n'y a pas de chocolat dans le truc.
Oui, c'est ça.
Il n'y a que de la pile.
Ceci dit, dans les chasses aux œufs, souvent, maintenant, ce qu'on fait pour pas perdre, pour envoyer de la nourriture dans les patates, etc., c'est qu'on met des faux œufs en plâtre et que
et on les échange après
mm-hmm. avec des trucs avec de la salmonelle. Et
Alors, ne cherchez pas sur votre plateforme de commerce en ligne ou dans le supermarché du coin. Ce n'est pas commercialisé. C'est juste un prototype que ce monsieur a
développé. Ça existe, mais en version vibrante.
Oui, dans d'autres genres de magasins.
Ceci dit, des chasses à ça, il y en a eu en Belgique aussi.
Oui, il y a eu ça en Belgique, des chasses à ça, comme tu dis.
Ouais. Des chasses à ça. Mais qui n'avait rien à voir avec Pâques. Hein. Voilà. J'espère que vous nous suivez hein, dans nos propos. Parce qu'on
en tout cas, on se comprend.
On se comprend.
On parle de vibrant, donc vous pouvez comprendre.
On essaie de ne pas se faire bannir aussi en même temps et de rester monétisé. C'est pour le peu qu'on y
est. Voilà.
C'est pas complexe. En termes technologiques, ça n'a aucune complexité.
Exactement.
Il faut être très clair. Mais c'est une très belle intention.
Intention. Et tout ce qui permet d'augmenter l'inclusion et la diversité.
Très important aussi dans ce cas-ci, c'est de les faire de couleurs différentes. Ça n'a pas beaucoup de sens.
Ça aurait fait des trucs blancs en plâtre,
finalement. Oui, c'est ça. Ça pourrait même être carré. En fait, on s'en fout.
Ah non, quand même. Non, parce que quand on les touche, après, c'est pas la même chose.
Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. C'est une chouette idée. Ça coûte pas grand chose à faire. Hein. Très honnêtement, vous pouvez le bricoler vous-même. En fait, c'est un petit bouton poussoir, une pile de 9 volts. Voilà, un petit truc qui fait bip-bip.
Un petit beeper. Et puis,
un petit beeper. Et c'est parti. Et ça amuse tout le monde. Bon, à faire, ouais, évidemment,
pour le coup,
sous contrôle.
Si pouvoir s'imprimer en 3D.
Oui, pas faire le long d'une falaise, par exemple, c'est peut-être dangereux. Enfin, il faut quand même un certain encadrement aussi. Mais non, mais c'est vrai. C'est genre, tu lances l'œuf comme une grenade, là, tu vois. Non, il faut pas.
Il faut pas les mettre contre un mur.
Non, pas les mettre contre un mur.
Donc, je ne cautionne pas.
Non mais non, moi non plus, mais je peux pas m'empêcher de rire. Voilà. Belle idée, très belle. Moi j'aime bien. Allez, on est à la lettre T comme Twitter, parce que ça c'est de l'actualité, mais proche aussi, c'est on avait déjà parlé la semaine passée, Elon Musk qui annonçait qu'il rentrait dans le capital de Twitter. Là, aujourd'hui, c'est le jour où on enregistre, hein, si je dis pas de bêtises, tout d'un coup, il sort du bois, Xavier, en disant « je peux même aller plus loin, je mets un peu d'argent sur la table et j'achète tout le bazar.
Ouais. » Hop là. Alors... Par rapport à la news qu'on avait traitée la semaine passée, on avait dit qu'il était invité à siéger au conseil d'administration, oui. Ce qu'il avait accepté, et en fait au final il a refusé, après coup, donc depuis lors. Et pourquoi est-ce qu'il a refusé? En fait c'est parce que ça a un certain sens à ses yeux, parce que s'il accepte de siéger au conseil, il ne peut pas obtenir plus de 14,9% du capital de Twitter.
D'accord.
Okay. Donc il ne pourrait pas... il pourrait pas augmenter sa participation dans la société. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il a l'intention de, en tout cas selon l'AFP, de proposer d'élever ses parts pour devenir l'actionnaire majoritaire, voire détenir 100% de Twitter. Il a proposé de racheter la totalité du réseau social, donc des parts de l'entreprise, et donc de sortir la société de la bourse, et il a fait une offre qui a l'air très sérieuse, puisqu'il a proposé de racheter les parts à $54 l'action, soit un total de $40 milliards. Donc c'est énorme, mais
une broutille pour
ce
lui.
N'est finalement qu'une petite partie de ses avoirs à lui. Et pour info, donc il propose $54 alors que l'action Twitter valait hier $47. Donc c'est une offre qui semble quand même assez intéressante, ou en tout cas qui devrait peut-être faire réfléchir les actionnaires. Selon l'AFP toujours, Elon Musk ne veut pas négocier et il menace, ou en tout cas il fait peser cette menace, de revendre ses 9,2% actuels, ce qui pourrait être plutôt ennuyant pour Twitter, parce que si on sait que l'action de Twitter a augmenté quand Elon Musk est rentré dans le capital, ça pourrait être l'effet tout inverse s'il décidait de revendre ses parts.
Bien
donc,
sûr.
Voilà, donc c'est interpellant, c'est une news qui, à mes yeux, valait le détour dans cette saga actuelle.
Oui, et ce serait pas étonnant qu'on connaît le personnage, qu'il ait calculé ça depuis un bout de temps. C'est-à-dire, il s'est pas levé un matin en disant « J'en ai marre, je ne peux pas corriger mes tweets, je rachète la boîte et on va régler ça. » Tu vois, c'est ce qui circule un peu sur Twitter, hein, c'est le type un peu voilà, j'aime pas la manière dont ils font les choses, je vais racheter ce truc et je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. C'est pas, à mon avis, c'est pas tout à fait ça quand même. Je pense que tout ça est très très organisé dans sa tête, c'est pas voilà, il est pas né hier, et donc voilà, affaire à suivre, et effectivement. La question que moi je pose aujourd'hui, c'est les usagers de Twitter seront-ils satisfaits de savoir qu'Elon Musk est propriétaire de ce réseau social? Moi, j'utilise Twitter depuis très longtemps et c'est le seul réseau social où je suis fidèle depuis que j'y suis connecté. Je me pose des questions. Je me dis franchement, qu'est-ce que ça va devenir, quoi, sous le règne d'Elon Musk? Je ne sais pas ce qu'en pense Seb.
Ben on se pose la question, mais on n'a pas de
réponse,
de data pour dire ça va être mieux ou moins bien. On ne sait pas.
Non.
C'est vraiment une question, je vais pas dire naïve, mais une question ouverte, sans idée préconçue. Donc moi, ça me donne l'idée du gamin qui peut pas, enfin voilà, qui peut pas avoir le jouet qu'il voulait, qui décide d'acheter l'usine, qui fabrique les jouets, parce qu'il peut. Voilà, j'ai les sous, je peux le faire, je vais mettre mes règles à moi. Je cherche la finalité entrepreneuriale. Parce que Twitter n'est pas une société qui fait des bénéfices extraordinaires.
Peut-être qu'elle n'est pas. Hein. Peut-être que c'est peut-être pas entrepreneurial. Pas. Mm-hmm. Et que c'est juste une envie d'avoir un outil.
Pourquoi est-ce que Trump ne l'a pas fait avant? Il aurait pu aussi. C'était son jouet favori.
Oui, je pense qu'il
avant qu'il soit jeté.
Je pense que, parce que quand même il est faux quoi. C'est mais voilà, c'est bon, affaire à suivre effectivement. On verra, on verra ça. C'est tout chaud là, hein, tel qu'on vous en parle. Si ça se trouve au moment où vous nous écoutez, le vent aura déjà tourné. Hein. Il faut être très clair. Ça peut aller très très vite. Donc je tiens à rappeler que nous enregistrons ce podcast le jeudi et que donc voilà, on est jeudi 14 pour être tout à fait précis. 14 avril, on ne se découvre pas d'un fil, et il est exactement 21h32. Si ça se trouve, à 34, il décide de changer le truc, ça a déjà changé, et donc il faut pas nous en vouloir. C'est comme ça, on passe à la suite. Il y a une lettre W, mais c'est pas un oui, mais non, c'est un Windows. C'est la séquence j'ai con de cette semaine. Quand Windows 3.1 fête ses 30 ans déjà, 30 ans de cet OS. Moi, je me rappelle comme si c'était hier.
C'est ça qui fait qu'on est un peu vieux, qu'on a des cheveux blancs tous les deux.
C'est ça, voilà.
Non, ouais. Xavier, j'allais dire toi les trois, mais non, Xavier, tu tiens bien, t'as pas encore de cheveux blancs. Ouais.
Non.
Windows 3.1.
Ah, si, comment ça se voit pas à la cam.
Ouais. Donc c'était en 1992, c'était avant Windows 95 qui a donné le look un peu plus moderne à Windows, et c'était un gros changement. C'était un gros changement pour plein de raisons, et c'est ça que j'ai 10 minutes pour en parler, un peu moins, parce qu'on va demander à Xavier ce qu'il en pense aussi.
Oui, quand même.
Mais il y a plein de choses à dire. D'abord, moi le truc qui m'a le plus plu, non, il y en a deux. Le premier qui m'a le plus plu dans Windows 3.1, c'est que pour la première fois, il y avait des true type fonts. Alors, je peux revenir un tout petit peu en arrière et vous expliquer qu'avant, les polices de caractère, c'était des images, exactement comme des JPEG ou des PNG, vous avez une image par lettre, et si vous vouliez écrire en .12, il fallait avoir les graphiques, les images en .12, si vous voulez les avoir en .20, il fallait les graphiques en .20, et si vous voulez les avoir en .60 et que vous aviez que des .20, vous alliez agrandir, mais ça allait faire comme quand vous agrandissez des photos aujourd'hui, ça allait faire des pixels, et donc on allait voir des petits escaliers sur le bord de vos lettres, etc. C'était horriblement... Il y a une société qui a imaginé d'avoir des polices vectorielles, exactement comme on peut avoir des images vectorielles aujourd'hui. Cette société, elle existe toujours, elle s'appelle Adobe. Ils avaient inventé les polices vectorielles. Il fallait installer un petit truc sur Windows 3.0. Il fallait installer Adobe Type Manager de mémoire, ATM. C'est un petit démon qui restait en mémoire en permanence.
Je me permets.
C'est pas Adobe qui a inventé les fonts vectorielles, tu vas me dire?
Ben non, parce que si je consulte Wikipédia, TrueType.
Alors, TrueType, oui. Alors, TrueType, oui, mais le format TrueType, le concept de fonte vectorielle, il faudrait qu'on creuse un peu plus. Moi, je pense que c'est Adobe, mais on peut en discuter. Ça va faire une discussion du vieux con autour du bar après. Mais c'est vrai qu'une des différences, c'est Steve Jobs ne voulait pas de fonte bitmap sur sa plateforme.
Ouais,
et Steve Jobs, Apple a été la première plateforme à inclure ça par défaut sur la plateforme. Maintenant, de l'origine, ok. Il y a un doute entre Apple et Adobe.
En tout cas, l'extension TTF et Defense.
Mais il y avait deux. Il y a deux. Après, d'un côté, il y a le concept de la fonte vectorielle. Et puis, il y a le format et il y a le TTF. Tu vois. Le TTF, je te le concède, ça peut être Apple. Adobe avait d'ailleurs son autre format, je sais plus comment ça s'appelait. Benoît pourra m'aider. Parce que c'est un autre chroniqueur de Les Technos qui m'a ouvert les yeux à la beauté de la calligraphie sur un ordinateur. C'était Benoît qui contribue très souvent aux Technos également. Mm-hmm. Et Benoît et moi, on était parmi les premiers à adopter Adobe Type Manager et essayer de collecter des polices de caractère gratuites sur nos ordinateurs Windows 3.1. Et donc, pour la première fois en 3.1, il fallait plus Adobe Type Manager. Il y avait ce format TTF qui était supporté en natif dans Windows. Ouais, on pouvait faire des grandes affiches à 4.
Est-ce que c'était pas OpenType?
C'est possible. J'ai poussé. Marc se gratte la barbe qu'il n'a pas. Est-ce que ça ne serait pas ça?
Oui, parce que ça, c'était une association.
Sur l'origine du TTF.
C'était OpenType, c'était une association Microsoft Adobe.
Adobe.
Oui.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait deux formats à l'époque, et Windows et finalement l'industrie globalement aura retenu le TrueType font, le deuxième a disparu comme c'est souvent le cas. Deuxième nouveauté de Windows 3.1 que j'aimais bien, le mode Enhance des processeurs 386. Si vous aviez un processeur 386, il y avait un mode particulier du processeur qui permettait d'adresser plus de mémoire. Parce que vous savez, la mémoire, si on veut y accéder depuis un processeur, ben, il faut être capable d'exprimer l'adresse de la case mémoire où on veut parler, où on veut lire ou écrire de l'information. Et donc, la quantité de chiffres qu'on peut mettre dans une adresse, c'est-à-dire la taille, le nombre de bits d'un processeur, si c'est 8 bits, 16 bits, 32 bits, ben, ça définit la plage d'adresse de mémoire. Si vous avez que deux chiffres, ben, vous pouvez accumuler que de 0 à 99, 99, donc 100 valeurs différentes si on parle en décimales. Ici, c'est en binaire, c'est un peu différent. Bref, dans le NNSet mode du 386, il y avait un système à double registre qui permet d'indexer des zones mémoire beaucoup plus larges. Et donc, tenez-vous bien, Windows 3.1 supportait 256 mégabytes de mémoire. J'ai bien dit mégabytes. Hein. Non, mais c'est énorme comparé aux, je sais plus, 4 mégas qu'il y avait avant, ou 8 mégas qu'il y avait avant, c'était 16 mégas, pardon. Donc on est passé de 16 mégas à 256 mégas grâce à ce système-là. Et ça permettait également une meilleure isolation, parce qu'il y avait un système de mémoire virtuelle. Avant, toutes les applications, elles partageaient la même espace mémoire. Donc si j'étais un mauvais développeur, ou un développeur distrait, ou qui fait des erreurs, et tout le monde fait des erreurs, je pouvais aller écrire des choses en mémoire ne sont pas mon adresse de mémoire à moi, mais celui d'un voisin d'une autre application qui tournait. Et donc, de causer des crashs, voire d'aller écrire dans des zones mémoire du système d'exploitation et crasher entièrement la machine. À partir de 386 Enhanced Mode, c'était pas encore parfait, mais on avait un premier niveau d'isolation entre les processus. Et donc, globalement, mon application Windows, elle pouvait pas aller écrire dans la mémoire de Windows ou d'une autre application et faire planter le système, ce qui a donné un système un tout petit peu plus stable que le système 3.0 avant. Ça a été bien amélioré après, parce que, je le rappelle, pour ceux qui s'en souviennent pas, Windows 3.1, c'était toujours une couche au-dessus du DOS. Le système qui bootait, c'était DOS, un écran noir, un terminal, et puis il fallait démarrer à la main Windows, on tapait Windows, et pssouf, il y avait Windows. Et
contrairement à ce qu'on disait à l'époque, c'était pas encore du multitâche en plus.
Et c'était pas du multitâche, c'était du multitâche préemptif, donc il fallait que l'application, le développeur de l'application, à un moment, il dise « Ok, là c'est bon, j'ai plus rien à faire, tu peux faire autre chose.
Oui, »
Mais
ça,
si le développeur ne relâchait pas la main, il la gardait, et donc l'application tournait tout le temps, et même le système, même Windows ne pouvait pas tuer une application puisqu'il n'avait plus la main. Donc ça c'était basé sur la bonne volonté, et surtout le fait que les développeurs ne fassent pas d'erreur, parce que souvent c'est pas une question de bonne volonté, c'est une question d'erreur, que le système lâche la main. Troisième et dernière chose, tu vois, je vais pas fermer 10 minutes, je te promets.
Non.
C'est Windows 3.1 a intégré, pour moi la plus grande erreur de design de Windows, a intégré le registry. Cette base de données binaire qui vous fait encore souffrir aujourd'hui, 30 ans après, qui est cette base de données qui contient tous les réglages de Windows et de ses applications. Pourquoi ne pas avoir fait comme Linux, des petits fichiers textes individuels? C'est facile à backuper, c'est facile à versionner, c'est facile à restaurer, on peut aller voir ce qu'il y a dedans sans utiliser, à déplacer, et tout. Non, c'est un gros fichier binaire, on sait pas ce qu'il y a dedans, faut utiliser une application spéciale pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans.
Il touchait, c'était warning, quoi, attention.
Bah, encore maintenant.
Reggedit. Encore aujourd'hui, oui, c'est vrai.
Faut pas
plus personne ne va s'amuser à taper Reggedit dans la ligne de commande. Ouais, c'est des chipoteurs, peut-être.
Non, c'est vrai, t'as raison, il y a pas grand monde qui connaît Reggedit, mais ben voilà, ça c'était une nouveauté de Windows 3.1 et c'était censé nous simplifier la vie. Comme quoi, il y a des choix qui ont été faits il y a plus de 30 ans qui nous ont kikine encore aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Parce qu'avant ça, je dois dire, c'était des fichiers texte, hein, comme sous Linux. Enfin, c'était pas le même format. C'était des fichiers .ini où il y avait des sections entre brackets, les parenthèses carrées, et puis des clés valeurs, paramètres égale valeur, paramètres égale valeur. Et ça, c'est tellement facile à éditer, à partager, à backuper. Ben non, il a fallu autre chose. Enfin voilà, c'était Windows 3.1. Ça a 30 ans aujourd'hui. Après, il y a eu Windows NT qui est radicalement différent, un kernel différent, un vrai multitâche, une vraie gestion de la mémoire. D'ailleurs, le kernel, c'est pas eux qui l'ont fait, ils l'ont acheté. Une société qui s'appelle Digital à l'époque. Ils n'ont pas acheté. Ce sont les ingénieurs de Digital.
Une fois qu'ils ont lancé.
Qu'ils ont débauché pour créer NT. Et puis il y a eu Windows 95 dont on fêtera les 30 ans dans 3 ans. Rendez-vous dans 3 ans pour le 600e épisode des podcasts.
Voilà. Je prévoirai un petit peu plus de temps parce que de là il parlera de Windows 2000 et autres. Merci beaucoup. Sébastien, je sais pas si Xavier avait un tout petit truc à rajouter rapidement.
Bah écoute, dans la séquence nostalgie, moi je peux pas en dire grand chose parce qu'en fait j'ai très peu joué avec, quand je dis jouer, c'est chipoter avec Windows 3.1. J'ai un tout petit peu plus 3.11, mais c'était surtout quand j'étais pour dépanner le PC d'amis ou autres, parce que moi je suis passé d'un 286 à un Pentium 100, et donc je suis passé vraiment d'un pur DOS à un Windows 95 quasiment. Donc j'ai très peu joué avec ça. Je me souviens juste que les images étaient encore avec un type d'extension qui était vraiment très limité. On parlait du bitmap qu'on connaît encore aujourd'hui, mais
très lourd.
Je pense qu'il y avait que le bitmap et il n'y avait pas encore le GIF ou le JPEG, et donc c'était très limité en termes de couleurs, etc. Et ça donnait ces graphismes un petit peu particuliers.
Et puis il fallait
256 couleurs.
Et quand on avait fait l'installation, il fallait backuper parce qu'il fallait pas oublier d'acheter 20 disquettes pour faire le backup de son Windows. Ouais. Voilà, on a fait. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question, de cette question-là, si vous voulez bien. Pour conclure cet épisode de 349, vous le savez, je l'ai dit en début d'épisode, il va y avoir un bonus qui va arriver, que vous avez peut-être déjà vu, ou pas encore, que vous verrez sans doute. Merci à tous les deux, Sébastien, merci Xavier, on se dit donc à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager, comme j'ai l'habitude de le dire. Passez une très très bonne semaine, à très bientôt, salut.